n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Notre invité est le chef du centre d'incendie et de secours d'Oyonnax. Il est parti en renfort cet été pour lutter contre les feux de forêt.
Reportage au domaine des saveurs Les Planons pour le dimanche des chefs. On apprend à cuisiner zéro déchet avec des pommes et des carottes.
On vous explique la crise énergétique et ses conséquences locales.
Et tout de suite, votre actualité en bref.
Bourque en bref.
Mercredi, c'est la journée mondiale du droit à l'avortement.
Un rassemblement est organisé à partir de 17h30 devant la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse par plusieurs syndicats et associations. Ce droit, toutes les femmes ne l'ont pas. En Europe, la Pologne l'interdit, sauf dans les cas de viol ou si la vie de la mère est en danger. À Monaco, il était interdit jusqu'en 2019. Depuis, il est dépénalisé, mais pas légalisé. Les femmes peuvent alors avorter seulement en dehors de la principauté. À Andorre, il est encore totalement interdit et c'est aussi le cas dans certains États des États-Unis depuis le mois de juin. Comme le disait Simone de Beauvoir, à propos de l'avortement, ces droits ne sont jamais acquis. Des manifestations auront lieu partout en France ce 28 septembre pour les défendre. Le droit à l'avortement pourrait aussi être inscrit dans la Constitution française pour qu'il ne soit jamais remis en cause dans l'Hexagone.
Grève ce jeudi pour défendre le pouvoir d'achat.
Sept syndicats appellent à la grève ce jeudi 29 septembre et ils dénoncent une action insuffisante de l'État pour le pouvoir d'achat des Français. Ils appellent le gouvernement à prendre des mesures plus importantes.
Des nouvelles des projets urbains à Bourg-en-Bresse.
Jean-François Debat, maire de Bourg et président de l'agglomération, nous explique.
Alors, pour ce qui concerne la ville, nous sommes engagés sur les travaux du pont de Lyon. Je rappelle que l'objectif, c'est de dégager l'îlot du pont de Lyon, là où il y a la brasserie, pour pouvoir ensuite, une fois que les travaux seront finis, à l'été 2023, définir avec le département un projet qui mêlerait de l'habitat, des commerces, des bureaux et un nouveau quartier préservé de la circulation automobile. Les travaux de la rue de la République se termineront à la fin de cette année 2022. Nous aurons une concertation avec les riverains sur le plan de circulation, puisque la circulation sera bien sûr rétablie, mais en revanche, un des objectifs, c'est aussi de permettre aux restaurants d'avoir des terrasses. Or, pendant l'été, lorsqu'il y aura des terrasses, on ne pourra pas y circuler en voiture. Donc il faut trouver un plan de circulation qui soit clair et qui ne change pas en permanence. C'est la raison pour laquelle nous aurons cette discussion avec les riverains dans les prochaines semaines. Nous poursuivons pour la ville les travaux d'aménagement des pistes cyclables, notamment sur le boulevard Kennedy, que vous voyez donc devant la piscine plein soleil, sur le boulevard Jules Ferry qui monte vers la gare. Et pour Grand Bourg Agglomération, nous poursuivons les travaux vers Césaria ainsi que vers Buellas pour que les vélos, on puisse se déplacer en vélo entre 3 et 5 km de manière sécurisée.
Certains bâtiments publics vont aussi bénéficier de travaux d'isolation thermique. Et dans quelques minutes, on revient sur les mesures prises par la ville de Bourg pour limiter la consommation d'électricité.
C'est le retour de Vous avez la solution, l'émission des initiatives locales.
Et pour le premier épisode de la saison, je suis partie à la ferme du Tiré à Foissia. J'ai rencontré Quentin, un jeune investisseur. Il veut rénover cette ferme bressane et développer son élevage d'insectes. Une fois cuisinés, ces vers sont consommés à l'apéro. Une source de protéines qui produit moins de CO2 que la viande. On écoute un extrait.
Vous avez la solution sur Radio B.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Vous avez la solution.
Pour faire revivre cette ferme, Quentin Bozonnet ne manque pas d'idées. Faire un gîte, accueillir des entreprises, cultiver du piment de Bresse ou encore élever des insectes pour la consommation humaine. C'est ce qu'on appelle l'entomophagie. On part à la rencontre de ces petites bêtes entreposées sur des étagères. Les œufs, les vers, les coléoptères, chacun son bac. Attention, ça grouille.
Le verre de farine, nous, on l'élève dans des bacs en plastique. Ça se présente sous forme de larves qui vont, au bout d'un moment, mesurer grand max 4 cm de long. Et à ce moment-là, elles vont se transformer. Donc, soit on les cuisine, nous, soit on les laisse se transformer en chrysalide. Au niveau nutritionnel, on est sur quelque chose de très intéressant qui offre les mêmes avantages, finalement, que de la viande, mais avec un impact sur l'environnement qui est moindre. Là, on a de l'insecte qui va consommer moins d'aliments, moins d'eau, prendre moins d'espace et émettre moins de gaz à effet de serre. Donc ça permet d'avoir de la viande finalement qui est très écologique.
Et pour écouter ce nouvel épisode de Vous avez la solution, c'est ce mercredi à 8h et à midi sur le 90FM ou en podcast jeudi sur www.radio-b.fr, rubrique info et Vous avez la solution.
Deux minutes, une actu.
Inès, aujourd'hui, vous nous parlez de la crise énergétique et de ses conséquences locales.
Lors de sa conférence de rentrée, Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse et le président de l'agglomération du Grand Bourg, a parlé longuement de la crise énergétique. Il explique ses conséquences sur le quotidien des habitants et sur les infrastructures de la ville.
Pour chacune et chacun d'entre nous, pour les Burgiens, ce sont évidemment les décisions prises par l'État avec des augmentations de factures. Et même s'il y a un bouclier, chacun sait bien que ce sera 15% pour l'électricité et également des factures de gaz qui seront en augmentation pour les habitants. Pour la ville, nous n'avons pas de bouclier, donc les tarifs sont susceptibles d'être multipliés par 2, voire plus, pour 2023. L'ensemble du budget gaz et électricité de la ville, c'est 1,5 million d'euros. En 2023, cela peut être entre 2,5 millions et 3,5 millions d'euros.
Pour réduire de 10% ses dépenses en énergie, l'agglomération et la ville vont chauffer à 19 degrés maximum toutes les structures. Un plafond à 14 degrés pour les gymnases, la fin de l'éclairage public dans certaines rues des quartiers résidentiels de Bourg et aussi des mesures pour les stades.
Pour ce qui concerne Grand Bourg Agglomération, nous allons également faire des mesures d'économie sur les stades, et en particulier le stade Marcel Verchère. Il faudra peut-être cet hiver garder son manteau quand on boira une bière après un match de l'USB dans l'espace réceptif. Je pense que nous y survivrons tous. Nous allons également réduire l'éclairage périphérique autour des matchs, donc l'éclairage des LED longtemps avant et longtemps après, et réduire au strict minimum, à la sauvegarde simplement de la pelouse, le chauffage de la pelouse pour éviter le gel. En réalité, nous ne pouvons pas nous permettre que le substrat gèle en profondeur, sinon c'est 1 million d'euros pour refaire l'ensemble du terrain, mais nous allons le limiter aux strictes périodes de gel pour diminuer d'environ 2/3 la consommation énergétique.
Pour les piscines, elles pourront être fermées plusieurs semaines si l'hiver est rude. Elles représentent la moitié des dépenses énergétiques de l'agglomération. Jean-François Debat appelle aussi le gouvernement à aider les villes et les agglomérations dans cette crise qui affecte directement leur capacité à investir et à poursuivre leurs projets.
Alors, quelles sont les causes de cette crise énergétique ?
En France, l'électricité provient principalement du nucléaire. Sauf que depuis plusieurs mois, notre vieux parc nucléaire ne fonctionne pas totalement. Début septembre, 28 des 56 réacteurs du territoire sont à l'arrêt pour des contrôles ou parce qu'ils ont un défaut. La France doit alors acheter de l'électricité à d'autres pays pour subvenir à ses besoins. Le coût de l'énergie est donc plus cher.
Et ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine ?
Pas directement. Notre parc nucléaire vieillissant est la principale cause de cette crise énergétique en France. Sauf que pour compenser le manque de production, nous prenons l'électricité dans d'autres pays européens qui, eux, la produisent avec du gaz. Sauf que le grand producteur de gaz, c'est la Russie. Ces pays européens ne peuvent donc plus acheter du gaz russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ils sont obligés de faire avec le gaz européen qui prend de la valeur, ce qui est rare et cher. Des conséquences qui se retrouvent aussi dans nos factures de gaz et d'électricité.
Concrètement, comment va se traduire la crise chez les Français ?
Pour l'instant, l'État a mis en place un bouclier tarifaire, c'est-à-dire que le gouvernement baisse la taxe sur l'électricité pour que votre facture n'augmente pas trop, seulement de 4% maximum. L'augmentation serait d'environ 30% sans ce bouclier. Et ça coûte très cher à l'État. Le gouvernement veut l'arrêter en fin d'année, reste à voir par quoi il va être remplacé.
L'invité de Radio B.
Plus de 60 000 hectares de forêt ont déjà brûlé en France cette année. C'est le constat d'un programme d'information sur les feux de forêt de l'Union européenne. Des feux d'été plus intenses, plus de surfaces brûlées et plus de régions touchées qui normalement sont épargnées. C'est ce que note aussi ce programme. Cet été, la Gironde et les Bouches-du-Rhône ont été particulièrement touchées. Pour faire face à ces incendies, des pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes et notamment de l'Ain ont été envoyés en renfort. Parmi eux, le capitaine Sylvain Jacquemeton, le chef du centre d'incendie et de secours d'Oyonnax. Il est notre invité. Capitaine Sylvain Jacquemeton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du centre d'incendie et de secours d'Oyonnax. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, plus de 300 pompiers luttaient encore contre un incendie en Gironde, dans le bassin d'Arcachon. Alors, des pompiers de l'Ain sont partis en renfort cet été, en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes vous-même parti en Gironde fin août. Comment s'organisent ces départs ?
On demande à des personnes s'ils sont volontaires pour armer les 4 engins de lutte contre l'incendie en feu de forêt. On a du personnel pour le commandement, donc on a un véhicule léger pour le commandement de ce groupe. Et on a aussi un véhicule de soutien logistique. Donc ce dispositif va s'intégrer à ce qu'on appelle une colonne donc, qui est armée de ces 3 groupes. Donc là, pour le coup, le SDIS de l'Ain était en compagnie du service départemental métropolitain d'incendie et de secours donc, du Rhône et de la métropole lyonnaise et du service d'incendie et de secours de la Savoie. Et ce dispositif, donc d'une 60aine d'hommes, est mobilisable en moins de 2 heures et donc doit se rendre à la demande d'un centre opérationnel zonal sur un événement. Alors, ça peut être un feu naissant ou alors, ça a été notre cas fin août, pour venir compléter et renforcer les acteurs locaux pour parfaire l'extinction.
Donc là, on vous appelle et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est des pompiers qui sont volontaires ou on est appelé, en fait, on n'a pas le choix, il faut s'y rendre ?
Voilà, on n'a pas le choix, puisqu'on a donné sa disponibilité sur une période. Donc, elle s'étend de vendredi matin 8h jusqu'au vendredi potentiellement suivant, 8h du matin. Et donc, on n'a pas le choix, puisqu'on a donné de la disponibilité. Donc, on a maximum 2 heures pour se rendre à l'état-major, à Bourg-en-Bresse. On prépare nos matériels, on charge nos paquetages et nous prenons la route. Voilà. Il faut savoir que la période de mobilisation peut s'étendre sur 10 jours. Alors, pour notre cas, sur fin août, nous sommes partis 9 jours en renfort à Ostens, en Gironde.
Vous êtes mobilisable en 2 heures. Vous arrivez sur place et là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il faut savoir déjà qu'on a une dizaine d'heures de route. Là, par exemple, la Gironde, c'est une dizaine d'heures de route puisqu'on est avec des engins poids lourds. Donc, on ne se déplace pas aussi rapidement qu'un véhicule léger. Et quand on arrive sur place, eh bien nous sommes pris en charge par le poste de commandement. Donc c'est un poste de commandement avec un commandant des opérations de secours. On se met à sa disposition. Donc pour le cas présent en Gironde, il nous donne les missions qui seront les nôtres dans les jours à venir. Il nous prévient des risques, puisque chaque territoire a sa géographie, a sa végétation. Et on s'est rendu compte pour le cas qui nous concerne en Gironde, que c'était bien différent de ce qu'on pouvait rencontrer sur le sud de la France.
C'est-à-dire ?
Notamment déjà en termes de relief. C'est un relief très plat dans le bassin où nous sommes intervenus, donc très plat, avec des végétaux, donc des pins pour l'essentiel. Donc, mais c'est une culture de pins, de la silviculture. Étant donné que c'est une culture, la volonté, c'est d'avoir un maximum de surface cultivée. Et donc, on s'aperçoit que parfois, les chemins ne sont pas aussi larges qu'on pourrait le rencontrer dans le sud de la France, où il y a vraiment une défense de la forêt contre l'incendie et vraiment une politique de prévention, avec des pistes qui sont très larges, des réserves d'eau qu'on peut trouver aussi au milieu des massifs forestiers, ce qui n'a pas toujours été le cas en Gironde. Après, un sol qui est complètement différent. On a un sol en Méditerranée qui est très sec, très dur, et on chemine facilement, que ce soit en véhicule ou à pied. Et là, en Gironde, on s'est retrouvé dans un sol de tourbe, de lignite, où on a même eu à rencontrer des phénomènes où les sapeurs-pompiers pouvaient être ensevelis jusqu'à la taille, puisqu'il y a une espèce de croûte souterraine qui cède sous le poids des hommes, avec les risques de brûlure nos équipements nous permettent de nous protéger, mais il faut l'avoir en tête. Le deuxième facteur, c'est la chute des arbres. Phénomène qu'on ne rencontrait pas non plus dans le sud de la France. Le sol tourbeux, comme je vous disais, avec des arbres, des pins, avec un réseau racinaire qui est très faible, peu développé. Ces racines se consument en sous-sol. Et avec des arbres d'une vingtaine de mètres, au premier coup de vent, bien voilà, ils chutent, avec les risques ben voilà, qu'ils chutent sur du personnel, sur des véhicules. Donc c'est des choses que l'on a constatées, hein, qu'on a vues. Voilà. Bien heureusement, personne n'a été impacté. Mais voilà, ça demande de la vigilance, beaucoup de vigilance.
Et c'est la première fois personnellement que vous partiez sur un feu en Gironde ?
En Gironde, oui. La première fois, première expérience. Donc, au départ, quand donc le commandant des opérations de secours nous a alertés sur ces phénomènes dangereux, on a un petit peu du mal à y croire. Et voilà, pour l'avoir vu, vécu, oui, ça pourrait être grave. Voilà. Donc ça demandait une extrême vigilance pour que ça soit le commandement, mais aussi les hommes qui étaient sur le terrain en train de s'activer à parfaire l'extinction.
Est-ce que vous étiez déjà intervenu en renfort plus autour du bassin méditerranéen
oui.
dans les années précédentes ?
Tout à fait, oui. Notamment l'année dernière, hein, j'ai participé au feu de Gonfaron, par exemple, hein, qui était aussi le feu de l'année 2021. Et puis après, bah, j'ai eu d'autres expériences par le passé, mais voilà, systématiquement sur le sud de la France. Ouais.
Donc là, c'était vraiment... vraiment des feux particuliers, c'était...
Oui. Oui, la doctrine même opérationnelle est changeante hein, entre ce qui se réalise dans le sud et ce qui se réalise en Gironde. Voilà, ils ont des engins de lutte contre l'incendie qui diffèrent des nôtres. Voilà, il a fallu s'adapter, venir se fondre dans l'organisation des sapeurs-pompiers locaux.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on revient de ces feux de forêt ?
Eh bien, ce qu'on ressent, c'est bah déjà le fait d'avoir accompli son devoir, hein, puisqu'on a pu échanger avec les collègues girondins, notamment, et voilà, ils étaient satisfaits de nous voir, puisque, enfin, je le rappelle, mais les feux auxquels ils ont été confrontés remontent déjà à la mi-juillet. Hein. Donc ça fait une grosse période d'engagement pour eux, les organismes sont fatigués, et donc ce soutien est apprécié par les hommes, donc... et par leur chef, hein, bien évidemment, mais voilà, donc le devoir accompli, la satisfaction de revenir avec tout son équipage aussi, ça, c'est un grand soulagement. Et puis, voilà, à titre personnel, c'est là l'essentiel.
Après, quand vous revenez, vous avez une période de repos ou vous reprenez vos activités habituelles ?
Eh bien là, je dirais que non, l'activité reprend ses droits. Alors, nous sommes rentrés le samedi, ce qui nous a permis... pour la plupart, d'avoir le dimanche en repos, mais il faut savoir qu'il y a des pompiers volontaires qui peuvent travailler le dimanche. Voilà, donc on a eu le samedi, la soirée du samedi, ce qui me concerne le dimanche, mais certains ont retravaillé dès le dimanche. Et puis, ben, on a repris son activité professionnelle dès le lundi.
Alors, on va faire un petit point sur la situation dans l'Ain au niveau des incendies, puisqu'il y a eu cet incendie vers Vouglans. Alors, quelle est la situation dans notre département ?
Alors aujourd'hui, bien heureusement, il n'y a plus d'incendie de forêt à signaler. Hein. La météo a été pluvieuse, ce qui permet de relativiser. Voilà, les massifs forestiers sont moins menacés qu'ils ne l'ont été il y a encore quelques semaines en arrière, quelques jours. On l'a vu pas très loin de chez nous, hein, dans le Jura. Voilà, c'était à quelques encablures du département de l'Ain où voilà, ils ont fait aussi des feux. Auxquels ils n'avaient jamais été confrontés par le passé. Voilà, la forêt du Jura, c'est la forêt qu'on trouve dans le Haut-Bugey. Voilà, on a aussi les caractéristiques sur le Bas-Bugey, sur le Pays de Gex. Enfin voilà, donc on peut pas se dire qu'on est à l'abri d'avoir des grands feux. Aujourd'hui, la situation est calme. On est vigilant quand même. Hein, puisque les arbres ont eu à souffrir quand même, donc les végétaux ont souffert. Et puis va venir la phase maintenant de retour d'expérience, hein, donc, où on va faire l'analyse de ce qui s'est passé cette année, des moyens, de la formation, de la doctrine. Voilà, il va falloir s'interroger. Et le but de tout ça, c'est d'améliorer s'il y a des sujets à améliorer. Et que demain, l'avenir nous le dira, mais si demain les étés ressemblent à celui qu'on a vécu cette année, et bien de se dire comment on pourra répondre si un grand feu venait à éclore dans l'Ain.
Le capitaine Sylvain Jacquemeton, chef du centre d'incendie et de secours d'Oyonnax. Avec déjà plus de 60 000 hectares de forêt brûlée, l'année 2022 pourrait faire date. On se rapproche aussi du record de 1976 avec 88 000 hectares brûlés et les 73 000 de l'année 2003 et son été caniculaire. Et l'ONF, l'Office national des forêts, prévient, cet été 2022 pourrait devenir une norme avec la répétition des sécheresses et vagues de chaleur dans les années à venir.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
Une fois par mois, le domaine des saveurs Les Planons invite un chef de l'Ain pour faire une recette avec le grand public.
En septembre, c'est à Anne Ferrat d'animer un atelier zéro déchet. Une dizaine de participants étaient là, enfants comme grands-parents. Un moment convivial pour tous les âges.
Aujourd'hui, donc on invite chaque premier dimanche du mois un chef à faire découvrir ses talents, ses savoir-faire. Et aujourd'hui, on accueille Anne Ferrat, donc récemment chef, c'est vrai, puisque c'est une reconversion, mais elle vous expliquera un petit peu mieux. Et aussi un tout nouveau resto mobile, puisque tu as ouvert, mis en place un resto mobile en mai 2022 pour créer une cuisine saine et créative.
C'est ça.
Voilà. Et ce resto mobile s'appelle Quinoa Lentille.
Exact. Si je vous dis comme ça, je vous teste vite fait, cuisine sans déchets, carottes et pommes, vous pensez quoi?
Carottes râpées, carottes... dans la soupe.
On réutilise les fans.
Je vous écoute.
Soit dans un velouté, soit dans autre chose.
Voilà. Donc l'idée, c'est la pomme, je fais ma compote. Quand je prépare ma compote, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein d'épluchures, j'ai plein de trognons. Qu'est-ce que j'en fais?
Compost.
Dans le pire des cas, je mets au compost, je mets sur mon jardin, je donne aux poules. Voilà. Là, je suis dans le zéro déchet. Et si je le réutilise, on peut faire des recettes. Donc j'en ai imaginé deux pour aujourd'hui, toujours à partir des épluchures et des trognons.
Des chips.
Donc ça, c'était la surprise que je voulais faire avec vous. C'est une petite expérience. On peut faire des chips d'épluchures de pommes, une version cannelle, toute simple, au four, et une autre version beurre salé et sucre. Toujours, ça va se passer dans le four. Vous avez ici des économes. Je vais laisse faire. On mettra nos pommes au four. Ce que j'ai oublié de vous dire au préalable, qui est très important, merci Annabelle, là, il vous faut des produits bio. Avec les épluchures, on peut faire deux formes de chips. Donc, soit on va les retailler, mais ça, je vais vous faire travailler, je vais vous donner des planches. Vous allez vous servir. Donc, deux recettes différentes. Une très simple. On fait des petites lanières et on met un peu de cannelle qui est là. Et après, on met au four. L'autre, on prend toujours nos épluchures, on met un beurre clarifié parce que je travaille sur sans lactose et le beurre, vous pouvez le dissocier du lactose si vous le faites chauffer et ça s'appelle du ghee, G-H-E-E. Tu sais écrire ou pas encore? Voilà, beurre clarifié. Beurre clarifié. Donc, on va utiliser le beurre clarifié qui est fait à partir du beurre de la laiterie des traits et qui est salé, plus du sucre. C'est bien, Martin. Je propose arbitrairement que ce soit toi qui mette la cannelle. Tu veux?
Oui, c'est bien.
Il me semble. Hein. Ça, c'est en cours. La pomme, les chips. Les chips, c'est prêt d'ici 15 minutes à peu près. On passe aux carottes? Anne Ferrat, je suis travailleur social de formation, j'ai 53 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle dans la cuisine. Je milite pour une cuisine saine et créative et avec le pari que tout le monde va aimer une cuisine sans gluten, sans lactose. 80% de mes produits viennent du local, dans un rayon de 30 km autour de Bourg-en-Bresse. J'utilise aussi, de préférence, des produits bio. Je trouve pas forcément tout en bio, mais dès que je peux,
je prends du bio. Donc toutes mes farines sont bio, ça c'est la base, le sucre est bio, dès que je peux. Mes légumes viennent d'un producteur local aussi et ils sont en raisonné.
Et donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de votre atelier? Comment vous l'avez conçu?
J'ai essayé tout de suite de me mettre à la place des apprenants et j'ai travaillé en amont pour que dans le cadre de l'atelier, on puisse partager des produits finis. Le challenge, c'était en une heure, montrer à un groupe un panel de recettes et d'astuces autour de deux produits, la pomme et la carotte.
Qu'est-ce qui a été au menu de cet atelier, en résumé?
Le principe, c'était optimiser le légume ou le fruit dans son intégralité. Donc, par rapport à la carotte, nous nous sommes concentrés sur l'utilisation des fans. À partir des fans, nous avons réalisé un pesto de fans de carotte et des chips avec les fans de carotte. Au niveau de la pomme, nous avons aussi optimisé dans l'intégralité du produit. Nous avons réalisé des pommes au four en faisant des chips avec les épluchures. Et nous avons préparé la base pour faire un sirop ou de la gelée à partir d'épluchures et de trognons de pommes.
Une croustillante.
Après l'effort, le réconfort, les apprentis cuisiniers se mettent à table pour déguster leur réalisation, et notamment les fameuses chips de pommes.
Vous aimez ?
Ben oui, c'est bon.
C'est sympa ?
Oui.
En fait, quand elles sont petites, voilà, en fait, vous voyez pourquoi je vous demandais de les faire petites ? Ça fait vraiment le petit cigare et elle est croustillante.
Oui, j'aime bien celle-ci.
Voilà.
Et ces ateliers ont lieu tous les premiers dimanches de chaque mois. Annabelle Arnaud est chargée de projet au domaine des saveurs Les Planons. Elle nous en parle.
Oui, c'est tous les premiers dimanches du mois. Donc, il y en a encore un en octobre et en novembre, parce qu'après, on ferme le musée pour la saison hivernale. Et donc, c'est une heure pour découvrir les talents et les savoir-faire des chefs indinois. Le prochain est animé par Marc Joquel du restaurant Le Petit Miseria. Et donc, à partir de 12 ans. Et le dernier de la saison est animé par Charles Phillips, alors non pas un chef, mais un apiculteur qui fait le miel que vous trouverez sur les marchés avec le nom Le Paradis des Abeilles. Et Charles Phillips, il va venir nous faire découvrir son miel et sa fameuse gaufre au pain d'épices. Et ce dernier dimanche des chefs est un dimanche des chefs en famille, puisqu'il est à partir de 4 ans. Donc l'idée, c'est aussi de... que les ateliers soient intergénérationnels et qu'on puisse cuisiner entre grands et petits. D'ailleurs, j'invite les jeunes collégiens qui bénéficient des chéquiers jeunes à en profiter puisqu'ils peuvent accéder à l'atelier et amener un accompagnateur adulte, quel qu'il soit, avec eux.
Et le prochain dimanche des chefs, c'est ce dimanche. Pour réserver votre atelier avec le domaine des saveurs Les Planons, vous pouvez envoyer un mail à domainesaveurs@1.fr. C'est 10 euros. Retrouvez la chef Anne Ferrat et son camion Quinoa Lentilles à Bourg-en-Bresse notamment, et vous pouvez la suivre sur sa page Facebook Quinoa Lentilles.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.